Europe Matin. Omblin Roche, Julien Pierce.
Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Et bienvenue sur Europe 1, c'est le coup d'envoi de votre petit matin. Youpi! C'est le réveil du vendredi qui, comme nous on l'espère, on croise les doigts, vous met en joie.
Oui.
Vendredi 13 qui plus est.
Un petit trèfle à quatre feuilles dans le coin de son portefeuille. C'était là le secret de son bonheur. Il le portait toujours sur son cœur.
Vous êtes adepte du trèfle à quatre feuilles dans le porte-monnaie, de la pâte de lapin accrochée au porte-clés, à moins que votre truc ce soit la poignée de sel jetée au-dessus de l'épaule.
En bref, quelle superstition êtes-vous? Du genre à mal vivre un vendredi 13, persuadé que le ciel peut vous tomber sur la tête? Gaffe aux échelles aujourd'hui, surtout branlante.
Oui, comme un tiers des Français, vous pensez que le vendredi 13 est plutôt signe de bonheur.
Oui, on va parler superstition ce matin, vous l'avez compris. Pourquoi en l'absence d'explication, on se tourne vers le sacré, on cherche une réponse dans le surnaturel? On a tous, ou presque, un jour conjuré le sort. Pour en parler à 5h45, nous serons avec l'anthropologue Abdou Gnaba, directeur de l'agence Sociolab. Dans l'actualité, ce 13 mai, Julien.
Jean Castex a réuni pour la dernière fois son gouvernement hier soir à Matignon avant de passer la main dans les prochains jours. Je vous donne le menu de ce dîner d'adieu. Salade de pâtes, saumon, asperges et morille. L'invité à 6h10, un homme qui a abattu un travail colossal et dont les conclusions dévoilées il y a quelques jours font froid dans le dos. Stéphane Pez, directeur de recherche à l'INRAE, qui a pendant 2 ans synthétisé 4000 études scientifiques sur l'impact des pesticides sur la biodiversité et les écosystèmes.
Un impact colossal, les produits phytosanitaires s'immiscent partout et on en retrouve même à plus de 3000 mètres de profondeur sous nos océans.
Il n'y a plus de doute, les pesticides sont l'une des causes majeures de l'effondrement de nombreuses espèces. Oui, mais comment s'en passer? Existe-t-il des alternatives viables ou à défaut de nouvelles pratiques à adopter? Réponse à 6h10 avec notre invité. On écoutera ensuite religieusement votre partition, Blin.
Et en ce vendredi 13, il fête son anniversaire. Stevie Wonder, Superstition, Stevie Wonder, 72 ans, ses débuts alors qu'il n'en a que 10 dans la partition à 6h20.
Ah, Superstition, je viens de faire le lien. Bien joué, ma chère Omblin. C'est la fatigue, c'est vendredi. La météo, bonjour Anissa Adali.
Bonjour Julien, bonjour Omblin.
Bon, qui sont les plus chanceux pour ce vendredi 13?
Eh bien, presque tout le monde. Finalement, le beau temps revient et la journée est assez ensoleillée sur quasiment toute la France. Mais en fait, comme hier, ce matin, on a encore cette instabilité entre le sud-ouest et le nord-est. On a cette diagonale là qui vient couper la France. Alors, ça sera moins agité qu'hier. Là, on a quasiment que des nuages. On a un tout petit risque d'orage ce matin sur la Dordogne. Et puis, cet après-midi, les nuages vont se concentrer uniquement sur le centre-est. Donc, vraiment entre l'Auvergne et les Alpes, hein, autour de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Là, ça sera un petit peu plus nuageux avec un risque d'orage aussi. Et partout ailleurs, c'est du très grand beau temps. Et c'est au nord de la Loire que la journée sera la plus belle, avec un soleil radieux dans un ciel sans aucun nuage. Les températures, on a 6 à 18 degrés ce matin, c'est comme hier. 17 à 24 sur la moitié nord cet après-midi, 24 à 28 dans le sud. C'est respirable, c'est ensoleillé, c'est agréable. Que demander de plus?
Que demande le peuple? Merci beaucoup Anissa Haddadi. Très bon réveil à tous, à l'écoute d'Europe. Il est 5h. Et à la une, champagne et petit four à Matignon hier soir. Jean Castex a dit adieu à ses ministres lors d'une garden party. La démission du chef du gouvernement est attendue lundi. Crise politique aux États-Unis à cause d'une pénurie de lait infantile. Rupture de stock dans tout le pays. C'est la panique dans les familles américaines. Et puis politique zéro dopage au JO de Paris 2024. 2 ans avant le départ des Jeux, les premières mesures ont été prises. Tous les détails à la fin de ce journal.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
Le journal qui vous est présenté par Johan Tritz. Bonjour Johan.
Bonjour à tous. Un petit four et puis s'en va. Jean Castex a mis les plats dans les grands pour son dîner de révérence. Ministre, secrétaire d'État et conjoint étaient invités dans les jardins de Matignon hier soir. Des dernières accolades avant de dire adieu Arthur Delaborde.
L'aventure se termine, c'est une nécessité politique, a expliqué Jean Castex sous les applaudissements de ses ministres. Il les a remerciés, soulignant le combat mené à leur côté face à de nombreuses épreuves. Pour marquer le coup, le Premier ministre sur le départ a reçu des cadeaux, notamment un maillot de rugby à son nom, signé par tous les membres du gouvernement. Certains lui ont rendu un hommage appuyé, comme la secrétaire d'État à l'économie sociale, Olivia Grégoire.
C'est beaucoup d'actions au service de la France, beaucoup d'abnégation. Jean Castex et tout l'engagement interministériel pendant cette crise terrible qu'on a vécu tous ensemble. C'est un homme qui est très souriant, très affable, mais qui a aussi été à la hauteur des événements.
Ambiance décrite comme chaleureuse et détendue, avec certainement un peu de tension chez les ministres. La plupart aimeraient rester au gouvernement, mais se savent sur la sellette. En attendant d'être fixés sur leur sort, ils doivent gérer les affaires courantes jusqu'à la dernière minute. Le ministre de la Cohésion des Territoires, Joël Giraud.
Il y a quand même des gens qui continuent à écrire à des ministères, qui veulent des réponses sur des sujets, donc il faut continuer à répondre.
La démission de Jean Castex et de l'ensemble du gouvernement devrait intervenir ce week-end ou au plus tard lundi.
Les précisions d'Arthur Delaborde pour Europe 1.
Un dîner d'adieu à Matignon pendant que Jean-Luc Mélenchon lui prenait l'apéro à Marseille.
Oui, quelques verres avant de prendre la parole, critiquant d'ailleurs les attitudes de monarque du camp d'Emmanuel Macron. Un discours où le chef de file LFI confirme une nouvelle fois il ne se représentera pas au législatives dans la ville du sud de la France. À sa place, son directeur de campagne, Manuel Bompard.
Jean-Luc Mélenchon quitte donc Marseille. Éric Zemmour, lui, arrive à Saint-Tropez.
Oui, la fin du suspense. Le candidat Reconquête va bien se présenter dans la 4e circonscription du Var, le parti qui présentera 550 candidats aux législatives.
On prend maintenant la direction du nord de la France avec un appel lancé par un poids lourd du secteur sidérurgique. On parle là d'ArcelorMittal.
Entreprise cherche urgemment candidat. C'est ce qu'on aurait pu lire sur les grilles de l'usine située à Dunkerque. Après avoir enregistré un bénéfice net record l'an dernier, le géant de l'acier recrute 530 postes disponibles, dont la majorité en CDI. Mais pour l'instant, le recrutement est difficile, Lionel Gougeot.
Une augmentation des prix de l'acier et une forte demande sur le marché européen. Arcelor a vu ses profits s'envoler l'an dernier. Près de Dunkerque, bientôt une nouvelle usine, des investissements pour décarboner la production d'acier. Alors cela offre des opportunités en matière d'emploi, selon Thierry Flamand, le directeur du site de Dunkerque.
On est vraiment aujourd'hui non pas dans un remplacement habituel des gens qui partent, mais vraiment dans un essor qui doit accompagner nos projets pour faire la sidérurgie de demain à Dunkerque et accompagner ces transformations importantes qui vont toucher nos sites.
Dans l'atelier de maintenance,
ce sont des machines qui nous servent à faire de la réparation.
Illustration de ces métiers qui évoluent loin des clichés négatifs de la sidérurgie.
Devant vous, vous avez une machine de mesure tridimensionnelle. Et donc, on est dans une salle climatisée à 20 degrés pour être dans les conditions idéales pour faire des mesures.
Pourtant, l'entreprise reconnaît des difficultés pour attirer les candidats. Problème de formation, mais pas seulement, selon Isabelle Bourgeois-Potel, responsable du recrutement.
Je pense qu'il faut aussi qu'on retravaille sur l'image de ce qu'est l'industrie aujourd'hui. Peut-être que l'image a besoin d'être dépoussiérée. Je pense qu'on a un peu oublié que c'était des opportunités possibles.
Dans un bassin d'emploi dont le taux de chômage est de 8,2%, plus d'un point supérieur à la moyenne nationale. À Dunkerque, Lionel Gougelot, Europe 1.
5h passées de 4 minutes sur Europe 1. L'actualité ce matin, c'est aussi ce couple français parti en vacances en Iran. Ils ont été interpellés dès leur entrée dans le pays.
Oui, le Quai d'Orsay demande leur libération immédiate. William Molinier, Téhéran, refuse, les accusant de vouloir déstabiliser la société.
Oui, ce sont en tout cas les mots employés par le ministère du renseignement iranien. Selon la télévision d'État, les deux Français étaient sous surveillance depuis leur entrée dans le pays et ils auraient pris contact avec des syndicalistes locaux de l'enseignement. Le couple est entré comme touriste. La femme est professeure de français, représentante internationale du syndicat de l'éducation Force ouvrière. Le secrétaire fédéral de l'organisation s'est inquiété d'être sans nouvelles de sa collaboratrice et de son compagnon. Cette arrestation intervient dans un double contexte, intérieur d'abord, car le gouvernement iranien fait face à une fronde du corps enseignant. 38 professeurs ont été arrêtés, 17 autres toujours détenus selon les ONG. Et un contexte géopolitique, puisque le négociateur de l'Union européenne chargé de coordonner les pourparlers sur le nucléaire iranien est actuellement dans le pays, ce qui relance inévitablement les soupçons de la communauté internationale sur les pratiques de Téhéran, accusé depuis plusieurs années maintenant de mener une diplomatie des otages étrangers pour peser dans les négociations.
Merci William Molinier du service police-justice d'Europe 1. De nouvelles arrestations qui portent à 4 le nombre de citoyens français détenus en Iran.
Panique à Pyongyang, la Corée du Nord s'affole après avoir enregistré son premier mort lié au Covid.
Le pays était jusque-là épargné. Le leader Kim Jong-un a immédiatement réagi, annonçant un confinement total et isolant toutes les personnes fiévreuses au nombre de 187 000 tout de même. Aucun des 25 millions d'habitants du pays n'est vacciné.
Et panique également aux États-Unis avec cette affaire prise très au sérieux par Washington, la disparition d'une célèbre poudre blanche.
On parle bien là de lait infantile. Depuis plusieurs semaines, des familles angoissées font plus de 100 km à la recherche de ce produit devenu rare. Les États-Unis annoncent 43% de rupture de stock dans tout le pays. La Maison-Blanche, critiquée sur ce dossier, tente de trouver des solutions. En attendant, les parents sont contraints de s'adapter. C'est le cas de cette jeune maman texane, l'une des régions les plus touchées.
Je n'avais jamais pensé être obligée un jour de rationner le lait en poudre. On a littéralement utilisé tout un réservoir d'essence en une journée pour essayer d'en trouver et à la fin, nous n'avons récupéré qu'un seul pot. J'ai de la famille en Louisiane et au Delaware, des amis en Géorgie et au Tennessee, d'une côte à l'autre du pays et personne n'a trouvé quoi que ce soit.
Témoignage recueilli par Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. L'OTAN pourrait accueillir prochainement un nouveau pays, la Finlande. Helsinki a annoncé sa volonté d'y adhérer sans délai, annonce qui provoque un tsunami géopolitique.
Oui, car en réponse, la Russie menace d'une riposte militaro-technique. La Finlande partage avec son voisin russe 1300 km de frontière. La France et l'Allemagne ont assuré le pays nordique de leur soutien. La Suède devrait aussi en faire la demande.
812 jours, très précisément, c'est ce qui nous sépare du début des JO 2024. Paris prône une politique zéro dopage.
Oui, à 2 ans du coup d'envoi, l'offensive pour un sport propre est lancée. Des mesures significatives ont déjà été prises, Axel May.
Oui, d'abord, un référent antidopage a été installé dans chaque fédération, explique Brigitte Henriquez, présidente du Comité national olympique et sportif français.
Les référents antidopage, ils sont obligatoires dans chaque fédération. Donc là, on a continué, nous, à faire en sorte que les fédérations qui n'étaient pas encore dans les clous par rapport à ça puissent l'avoir. Et nous, on va animer ce réseau de référents antidopage pendant là, les 2 ans qui viennent. Et ça y est, on est en ordre de bataille pour le faire. On ne peut pas se permettre d'avoir un sujet par rapport au dopage pendant les Jeux de Paris 2024.
Car malgré les conseils, malgré la prévention, les jeunes athlètes ne restent pas insensibles au mirage des produits dopants, met en garde Dominique Laurent, présidente de l'AFLD, l'Agence française de lutte contre le dopage.
Depuis une dizaine d'années, c'est quand même développé auprès des jeunes l'idée que les produits étaient accessibles facilement du fait de l'accès à l'Internet. Donc il faut être encore plus vigilant maintenant.
Pour limiter au maximum les risques, une formation d'éducateurs antidopage a été mise en place par l'AFLD. Objectif, que 100 éducateurs soient formés et déployés sur le terrain d'ici la fin de l'année.
Axel May du service des sports d'Europe 1.
Et c'était le journal de Johan Tritz. Merci beaucoup Johan.
Il est 5h08 et ce sont les courses de Thierry Léger à présent. Le Paris gagnant, bonjour Thierry.
Bonjour Ambline, il y aura des courses ce soir en nocturne sur l'hippodrome de Vincennes et mon pari gagnant sera le 211 Just Gigolo. Vainqueur du Critérium des Jeunes l'hiver dernier à Vincennes, il est désormais considéré à juste titre comme le leader actuel de sa génération. Ce soir, il va certes effectuer une rentrée après plus de 2 mois d'absence, mais comme il dépend du redoutable entraînement, celui de Philippe Allaire, qui ne passe pas pour être un dormeur le matin à l'entraînement, nul doute que ce fils du prometteur étalon, Bocador du Cime, devrait pouvoir sans aucune difficulté asseoir une nouvelle fois sa suprématie face à ses contemporains. Alors notez bien, pour Vincennes, réunion 1, dans la deuxième course, le numéro 11, Just Gigolo.
Le très cher Just Gigolo. Merci Thierry Léger, vous revenez dans un instant pour les pronostics du Quintet. À tout de suite.
Ombline Roche et Julien Pierce sur Europe 1.
Et comme chaque matin à 7h06, 5h10 précisément, nous sommes trois. Bonjour Martin Lange.
Bonjour Ombline, bonjour Julien, bonjour à tous.
On commence comme chaque matin avec les unes de vos journaux et ce visage bouffi et menaçant que mettent en avant les échos, celui du maître du Kremlin. Gaz russe, Poutine resserre l'étau sur l'Europe, titre Le Quotidien, alors que Moscou a cessé d'alimenter un gazoduc fournissant l'Allemagne via la Pologne. Autre visage familier à la une ce matin, celui de Marie-Sophie Lacaro. J'ai vécu 2 mois dans le noir, explique la présentatrice du 13h de TF1. Privée d'antenne 5 mois en raison d'une maladie rare à l'œil, elle fera son grand retour lundi. Et puis un cercle orangé, flou et entouré de noir. Voilà ce que l'on voit en une du Figaro. C'est la première image du trou noir supermassif caché au centre de la Voie lactée. Un cliché qui aura nécessité plus de 10 années de travail et la mise en réseau des plus grands radiotélescopes de la planète. C'est une prouesse. Ombline, on commence avec vous.
Oui, tous les fans d'Oasis se souviennent exactement de l'endroit où ils étaient le 28 août 2009. Oasis, le groupe anglais bien sûr, et ils se souviennent tous de cette annonce sans appel sur un panneau lumineux du festival Rock en Seine à Saint-Cloud, près de Paris. À la suite d'une altercation au sein du groupe, le concert d'Oasis est annulé. Au festival Rock en Seine, c'est la dispute de trop entre les deux frères ennemis. En tournée depuis des mois, les Gallagher ne s'adressent déjà plus la parole. Et quand ils se rencontrent en loge, ce jour-là, le ton monte. Liam fait un doigt d'honneur à Noël, lance une prune, le fruit qui atterrit sur le mur, avant de revenir avec une guitare, la guitare de Noël Gallagher en l'occurrence, avec laquelle il manque d'assommer son frère Fin de l'histoire, Noël quitte les lieux en voiture Oasis. C'est terminé. Eh bien, c'est cette fameuse guitare fracassée, puis réparée, une Gibson ES-355 de 1960, couleur rouge de cette guitare est flamboyante. Eh bien, cette guitare sera vendue aux enchères mardi prochain, mon cher Julien. C'est sur cette guitare que Noël Gallagher composait, enregistrait en studio et jouait sur scène. Avant lui, elle était passée entre les mains du guitariste et compositeur des Smiths, John Marr. 2 ans après la dispute, l'instrument a été confié au luthier français installé à Londres, Philippe Dubreuil. Il lui a redonné vie, beauté et un son exceptionnel, le son exceptionnel d'antan. Finalement, trop lié au souvenir douloureux de cette fin tragique d'Oasis, Noël Gallagher décide de s'en séparer en 2017. La guitare est achetée par un collectionneur français. Et bien, cette Gibson rouge sera donc vendue avec son étui d'origine chez Drouot. Elle est estimée à 500 000 euros. Ce ne sera pas le seul objet. Oui, 500 000 euros.
Pas donné quand même.
Non.
J'ai appelé ma banquière déjà et bizarrement,
elle
n'était pas super chaude.
Non, elle n'a pas envie.
Elle n'a pas envie.
Elle pourrait faire un effort quand même.
Elle pourra faire un effort par exemple pour la basse de l'ex-membre de Téléphone, Corinne Mariano, également mise aux enchères, des vinyles rares aussi, et notamment un 45 tours de Johnny Hallyday qui a été signé par Lidl, mais aussi par Mathieu Chédid, mais aussi par Jimi Hendrix. Autant vous dire que ce disque a un destin étonnant. Vente exceptionnelle d'objets iconiques du rock à Paris mardi prochain, et notamment la guitare de Noël Gallagher fracassée en loge à Rock en Seine. C'est sur le site du magazine Rock and Folk et sur celui de Vanity Fair.
Merci. Omblin, Martin, je me tourne vers vous. Quelle histoire avez-vous sélectionnée ?
Eh bien, une découverte pour le moins surprenante, direction l'Angleterre, où Sammy Shelton, un petit garçon de 6 ans, est tombé par hasard sur une plage, sur une dent de requin.
Horreur, malheur.
So what, comme diraient nos voisins britanniques. Et alors, eh bien, ce n'est pas n'importe quelle dent de requin, c'est une dent XXL, une dent géante de plus de 10 cm. Elle appartiendrait à un mégalodon, une espèce désormais disparue, mais dont les spécimens sont les plus grands requins n'ayant jamais existé. La trouvaille de Samy aurait 20 millions d'années.
J'aime pas vous poser cette question, Martin, j'aime pas, mais je vais la poser quand même. Ça ressemble à quoi, un mégalodon ?
Eh bien, on ne sait pas vraiment, en fait. Il y a plusieurs hypothèses. L'Autodus mégalodon, c'est son nom scientifique, pourrait soit ressembler à un requin blanc sous stéroïdes, plus grand et plus trapu encore, ou alors à un ancêtre du requin pèlerin. Vous savez, c'est le plus grand requin vivant actuellement. Toujours est-il que le mégalodon battait tous les records, selon les spécialistes, plus de 10 mètres en moyenne et des spécimens pouvant atteindre 20 mètres de long. C'est difficile de se rendre compte, mais allez voir la photo de la dent. Elle recouvre le visage de Samy, c'est impressionnant.
Ouais, et d'ailleurs, pour, à titre de comparaison, un requin blanc, je crois que le plus grand, c'est 7 mètres de long. Donc c'est quasiment 3 fois plus. Est-ce qu'on en sait plus sur le mégalodon de Samy, en l'occurrence?
Oui, grâce à un biologiste qui a passé la dent au peigne fin, son propriétaire aurait mesuré jusqu'à 18 mètres de long et pesé 60 tonnes. Il écrasait tout sur son passage. C'était un mangeur de baleines, explique Ben Garrow, le scientifique, un jaloux de Samy. Je cherche une dent comme celle-ci depuis que je suis enfant. Je connais toutes les plages du coin, mais je n'en ai jamais trouvé. L'enfant, lui, est évidemment très fier de sa découverte. Il l'a présentée à l'école, à tous ses petits camarades. Et écoutez bien, il dort avec, raconte son père, une dent de 10 cm de long. Ça doit faire une sacrée bosse sous l'oreiller. Ce jeune garçon a découvert une dent de mégalodon, le plus grand requin ayant jamais existé. C'est la belle histoire à retrouver dans l'édition du soir de West France.
Faut qu'il fasse attention, parce qu'une petite terreur nocturne et il finit par se la planter là-dedans.
Ouais. C'est surtout, moi je m'inquiète pour la petite souris, si elle doit venir chercher une dent comme ça.
Elle vient avec une équipée.
Elle est obligée de venir avec beaucoup de pièces.
Une machine de chantier.
Merci beaucoup Martin. Vendredi 13, voilà une date qui ne laisse pas indifférent. Vous allez d'ailleurs vous pencher sur le sujet Omblin avec votre invité à 6h moins le quart. Il y a ceux qui croient en leur bonne étoile, une chance décuplée, et ceux qui vont longer les murs, car c'est certain, vendredi 13, c'est la guigne assurée. Autant vous dire que pour ces grands superstitieux-là, ils ne devraient pas, selon toute vraisemblance, monter aujourd'hui dans un avion impensable, suicidaire. Ils préfèrent voyager à d'autres dates. Or, cette baisse supposée de la demande ferait plonger les prix des billets, si bien que réserver un vol pour un vendredi 13 serait même l'astuce ultime pour faire des économies. C'est en tout cas ce qu'affirme la société Kayak. Selon ce comparateur en ligne, le vendredi 13 est l'un des jours où les vols sont les plus abordables de l'année. Le prix moyen des billets serait même inférieur d'un tiers, 33%, par rapport aux autres vendredis en 2022. Une aubaine, Pas si vite, nous explique cet article du Figaro. Le quotidien a interrogé les autres comparateurs du marché ainsi que plusieurs compagnies aériennes. Et les réponses sont beaucoup plus mesurées. On ne constate pas de différence majeure avec les autres jours, explique-t-on prudemment à Air France. La compagnie à bas coût Transavia, elle, est plus catégorique. Il n'y a pas d'effet vendredi 13 et ce tant au niveau de la demande que des tarifs pratiqués. C'est ce que constate également le comparateur Liligo. Les billets à prix cassé le vendredi 13, c'est une légende urbaine, sur le porte-parole de l'entreprise. Alors certes, il y a parfois des réductions, explique-t-il, mais ce sont des offres promotionnelles qui justement prétextent cette superstition. En clair, les compagnies qui font des coûts commerciaux, non pas parce que la demande s'effondre, mais uniquement pour attirer de nouveaux clients. À noter enfin pour les Paraskevi Decatriaphobes, c'est comme
pardon
ça... Ouais, là, les Paraskevi Decatriaphobes, c'est comme ça qu'on appelle les phobiques du vendredi 13 dans les dîners mondains. Il n'y a pas davantage d'accidents aériens à cette date que les autres jours, c'est même tout le contraire. La Flight Safety Foundation recense en moyenne 0,067 crash d'avion les vendredis 13. Or, la statistique globale, incluant tous les jours du calendrier, est de 0,091 accidents mortels quotidiens, soit 36% de plus. Voilà qui devrait vous convaincre de voler un vendredi 13. Prendre l'avion un vendredi 13 coûte-t-il moins cher? C'est à lire sur le site du Figaro.
Et ça fait bien aux superstitieux, pour le coup. L'article ainsi. Merci beaucoup Julien, merci Martin. Vendredi 13, mais du sport quand même, dans 40 minutes.
Évidemment, à tout à l'heure.
Europe Matin.
Omblin Roche et Julien Pierce.
5h18, les principaux titres de ce vendredi. Le journal permanent, Johan Tritz.
Petit four et champagne hier soir à Matignon. Jean Castex a dit adieu à ses ministres lors d'une garden party. Il a reçu en cadeau un maillot de rugby signé par tous ses collaborateurs. Après une visite au Vatican dimanche, il devrait présenter sa démission lundi. Il a pris quelques verres aussi hier à Marseille et une décision définitive. Jean-Luc Mélenchon ne se représentera pas aux législatives dans la cité phocéenne. À sa place, son directeur de campagne, Manuel Bompard. Éric Zemmour sera bien lui candidat dans le Var, dans la 4e circonscription avec la ville de Saint-Tropez. Il y avait fait ses meilleurs scores lors des dernières présidentielles. La Finlande demande son adhésion sans délai à l'OTAN, provoquant un tsunami géopolitique. Le pays nordique possède 1300 km de frontières avec la Russie. Moscou menace d'une réponse militaro-technique. La Suède pourrait aussi se déclarer bientôt candidate. Les portes, télés et fenêtres fermées en Corée du Nord, le pays totalement confiné après un premier mort officiel lié au Covid. Des milliers de personnes fiévreuses ont été mises à l'isolement.
Europe 1. Ce sont les initiatives en France. À présent, la chronique de celles et ceux qui font bouger les lignes.
Bonjour Francis Hachem.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes le fondateur de CodeNect. Ça s'écrit CodeNect. Et c'est une application gratuite qui permet aux conducteurs de s'affranchir des contraintes liées à la gestion de leur véhicule. C'est-à-dire, expliquez-nous.
Alors c'est exactement ça. Donc l'idée c'est d'avoir dans l'application l'ensemble du suivi du véhicule, donc le suivi des entretiens, du contrôle technique, d'embarquer tous les éléments qui concernent ce suivi, évidemment le détail des interventions, mais aussi les factures, le contrôle technique qui est dématérialisé. Donc voilà, avoir vraiment toute la vie du véhicule en un seul endroit, donc dans l'application.
C'est en quelque sorte un carnet de santé dématérialisé du véhicule ?
On peut l'appeler comme ça, effectivement. C'est le carnet de santé dématérialisé qui met en relation donc l'utilisateur avec le garage, les centres auto, son assurance également. Donc c'est, on va dire que c'est à cheval entre le carnet de santé et le Doctolib du véhicule.
Ça veut dire que l'application m'avertit, m'envoie des rappels, par exemple pour les révisions ou les contrôles techniques ?
C'est bien ça. Dans la mesure où on a l'historique de tout ce qui s'est passé sur le véhicule, donc si l'application sait que votre contrôle technique arrive à échéance dans 2 mois, par exemple, elle va vous dire « contrôle technique arrive à échéance dans 2 mois, veux-tu prendre rendez-vous ?» Et puis derrière, nous, l'idée, c'est d'automatiser la prise de rendez-vous avec le centre de contrôle technique, mais aussi avec les centres auto et les garages, si ce sont des interventions de réparation, de suivi.
Mais cette fonctionnalité, aujourd'hui, la plupart des constructeurs le proposent déjà. Ils ont des applications dédiées, connectées directement parfois aux véhicules, en tout cas les plus récents. Qu'est-ce que CodeNect apporte de plus par rapport à ça ?
Alors justement, c'est ça. Donc aujourd'hui, les applications qui connectent les véhicules concernent essentiellement des véhicules récents et non pas des véhicules plus anciens. Ça, c'est la première chose. Et les constructeurs donc sont connectés à leurs utilisateurs seulement quand le véhicule est entretenu par le circuit du constructeur. À partir du moment où l'utilisateur commence à l'entretenir dans son garage de quartier ou dans un centre auto, eh bien, la connexion entre le centre auto et son réseau est perdue avec l'utilisateur. Donc nous, on vient un petit peu se greffer à l'entretien et couvrir tous les types d'interventions et tous les types d'acteurs, qu'ils soient centre auto, garagiste ou même garage de constructeur.
Donc, qu'on soit bien d'accord, votre application ne se connecte pas directement au véhicule. C'est au conducteur d'ajouter lui-même dans l'interface les documents qu'il souhaite conserver.
Alors, c'est ça aujourd'hui dans un premier temps. Et puis, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est commencer à contacter les centres auto et toutes les parties prenantes donc qui concernent le véhicule. L'idée étant de connecter l'application à leur système d'information pour permettre d'une part la prise de rendez-vous automatisée au moment de l'échéance, mais surtout, une fois que l'intervention est faite, de permettre en fait aux techniciens, au moment de générer la facture et au moment de générer le paiement, de déverser toutes les informations dans l'application, donc la facture et le contenu de l'intervention. Donc l'idée, c'est d'automatiser tout ce process.
Comment motivez-vous les conducteurs à jouer le jeu, à remplir eux-mêmes l'application ?
Eh bien, on les motive en leur donnant des points. Donc, on gamifie quelque part l'utilisation de l'application. Plus ils la renseignent, plus ils gagnent des points. Et dans un second temps, ces points vont pouvoir être transformés en euros pour acheter des services, soit dans l'écosystème du véhicule, soit dans un troisième temps auprès de commerçants, commerçants traditionnels, donc hors véhicule. Donc, la première chose, c'est ça, c'est la gamification. Puis la deuxième chose, c'est aussi leur expliquer que plus l'application est renseignée, donc plus ils dématérialisent les documents, moins ils auront de risque de les perdre. Parce qu'aujourd'hui, il est là le problème, c'est que les factures, on ne sait pas où on les a rangées, on les a scannées, mais parfois on les a perdues. Et donc du coup, au moment de revendre ce véhicule, on n'a pas la preuve qu'on a réellement entretenu le véhicule. Et donc là, l'application va apporter la preuve de l'entretien.
Ça peut être un atout pour une éventuelle revente du véhicule, effectivement. Vous l'avez dit, ces données sont précieuses. Quelle garantie donnez-vous contre un éventuel piratage ?
Eh bien, aujourd'hui, les données, une fois qu'elles sont rentrées dans l'application, on les stocke sur la blockchain. Donc la blockchain, sans rentrer dans les détails techniques, ça garantit justement la sécurité des données par la construction même de ce réseau. Donc ça, c'est la première chose. Et la seconde chose et le second intérêt de la blockchain, c'est que ces données ne seront pas modifiables. Je prends un exemple très simple, le kilométrage. Lorsqu'on enregistre le kilométrage sur la blockchain, si celui-ci est de 62 000 km par exemple, à aucun moment le propriétaire ne pourra modifier le kilométrage et le faire passer à 30 000 pour gagner sur la vente du véhicule. Puisqu'une fois que c'est enregistré sur la blockchain, ça n'est pas modifiable et donc c'est complètement sécurisé.
Votre application fonctionne avec tous les véhicules qu'on croise sur la route, les voitures comme les deux roues ?
Absolument. Aujourd'hui, voitures et deux roues et plus tard, camping-car, enfin tout type de véhicule. Mais en l'état, aujourd'hui, ces véhicules, voitures personnelles, privées et deux roues.
Et aussi les voitures de fonction, les flottes d'entreprise ?
Exactement. On a aujourd'hui une offre dédiée aux gestionnaires de flotte, donc ça fonctionne exactement de la même façon, avec une application pour les salariés. Et pour gérer ces applications, il y a une application pour le gestionnaire de flotte qui va pouvoir attribuer les véhicules à ses collaborateurs et donc faire le lien avec l'application. Et lorsque l'application remontera des notifications d'entretien, eh bien, le gestionnaire de flotte aura les mêmes notifications et saura si le collaborateur a fait le nécessaire auprès de son garagiste ou centre auto.
Vous avez combien d'utilisateurs, tout confondu à l'heure actuelle ?
Aujourd'hui, on est à peu près à 5000 utilisateurs. Donc, l'application est toute jeune. Hein. Elle a été lancée en septembre dernier, septembre 2021. Donc, on a 5000 utilisateurs et puis ça grossit au fur et à mesure. On commence à commercialiser de manière beaucoup plus proactive depuis février de cette année.
Merci beaucoup, Francis Hachem, de nous avoir présenté CodeNect, le carnet de santé numérique des véhicules. Je vous souhaite une excellente journée.
Merci à vous. Très bonne journée également.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
Merci à vous d'écouter Europe 1. Bon réveil à suivre le journal de 5h30 de Christophe Lamarre. Et puis croisons les doigts, touchons du bois. Nous sommes vendredi 13 aujourd'hui.
Ouais, il y a ceux qui se précipitent au bureau de tabac pour tenter leur chance au loto. Et puis il y a ceux qui restent au fond du lit, de peur de jouer de malchance. Les superstitions ne sont pas vraiment rationnelles. Pourtant, on y croit un peu. Pour vous, Julien, le matin, c'est toujours les mêmes gestes. D'abord la jambe gauche, toujours. Ouais. Chaussettes, chaussures,
comme
puis la jambe droite.
Que des numéros 10 en matin.
Voilà, on parlera superstition. avez la ref. C'est bien. On parlera superstition dans un quart d'heure avec l'anthropologue Abou Gnaba, directeur de l'agence Sociolab.
Et juste après votre rendez-vous musique du vendredi.
C'est le retour du groupe britannique Florence and the Machine. Le cinquième album Dance Viver sort aujourd'hui et c'est le choix de Stéphanie Loire à 5h50.
Et le choix d'Anissa Haddadi pour la météo, c'est
le
soleil partout.
Ouais. Absolument. Alors, partout, attention, on est en train de s'enflammer avec le soleil. Il n'y en aura pas tout à fait partout, parce qu'on a encore, comme hier, cette instabilité qui se situe entre le sud-ouest et le nord-est. Donc, entre les Pyrénées et l'Alsace, on a une petite bande nuageuse, mais qui sera beaucoup moins perturbée qu'hier, parce qu'hier, on a eu des averses dans cette instabilité-là. Là, aujourd'hui, ça sera simplement nuageux. Des petits orages sur la Dordogne ce matin. Les nuages, cet après-midi, vont se décaler sur le centre-est, la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec là aussi un petit risque d'orage. Partout ailleurs, c'est le soleil qui l'emporte, et notamment sur la moitié nord, c'est là qu'on aura le plus de soleil aujourd'hui. Les températures, alors ce matin, on a un petit peu frais. 3 à Charleville-Mézières, 6 à Quimper, 9 à Lille, 10 à Paris et 16 à Strasbourg. Cet après-midi, 15 à Boulogne-sur-Mer, 18 à Dunkerque, 21 à Lille, 23 à Paris, 26 à Bordeaux, 28 à Carcassonne.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Bon réveil à tous à l'écoute d'Europe 1. Il est 5h30.
Europe 1.
Et à la une de ce vendredi, dîner d'adieu à Matignon et pot de départ à Marseille. Jean Castex convie ses ministres pour un ultime repas aux allures de testament politique. Et à 800 km de là, Jean-Luc Mélenchon, lui, organisait un apéro de l'Union Populaire dans un quartier marseillais. Il renonce à se présenter aux législatives dans les Bouches-du-Rhône. Dans ce journal également, la pénurie d'huile de tournesol donne des idées aux agriculteurs français. Reportage dans le Nord où certains n'ont pas attendu la guerre en Ukraine pour se reconvertir. Et puis, le choc des cultures au Red Star, le club de football de la région parisienne vendue à un fonds de pension américain. Les supporters ont bien du mal à l'encaisser.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Et à 5h30, le journal, c'est Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Julien, bonjour à tous. C'était une rumeur, c'est désormais officiel. Jean-Luc Mélenchon ne briguera pas un nouveau mandat de député. Le leader de la France Insoumise l'a annoncé hier à l'occasion d'un apéro organisé à Marseille, sa terre d'élection. Le leader de la France Insoumise s'efface au profit de son ancien directeur de campagne, Manuel Bompard. Passage de témoins en direct et devant 300 militants auxquels assistait notre correspondant à Marseille, Stéphane Burgat. Reportage.
Après 50 minutes de discours sur une petite placette de quartier, Jean-Luc Mélenchon lève le voile.
Alors monsieur Mélenchon, pourquoi vous n'êtes pas candidat? Que c'est Bompard qui va être candidat. Dans les Insoumis, c'est une des figures parmi les plus éminentes de la nouvelle génération. Je vous le confie, il faut les lire.
Mais les rumeurs avaient déjà eu raison du suspense. Une page se tourne avec l'entrée en scène de l'eurodéputé Manuel Bompard.
Peut-être une page qui se tourne pour en ouvrir une nouvelle. La nouvelle page qu'on a envie d'écrire, c'est Jean-Luc Mélenchon à Matignon. Il participera à la campagne partout en France.
Et c'est le message que retiennent majoritairement les 300 militants comme Nathalie, venue assister à ce passage de témoin.
C'est pas grave en soi. Le candidat qui va se présenter vaut bien Mélenchon et Mélenchon a une autre destinée que celle d'être simple député.
Reste quelques voix discordantes. Jean-Luc Mélenchon commet une erreur majeure en ne se représentant pas, selon Sylvie.
Le fait que petit à petit, il se lève de ses fonctions, ça y est, ça crée maintenant. Ça va lui jouer des tours.
La circonscription lui semblait pourtant acquise. En 2017, Jean-Luc Mélenchon y était élu dès le premier tour. Marseille, Stéphane Burgat, Europe 1.
Jean-Luc Mélenchon rêve d'être Premier ministre. Lui s'apprête à quitter ses fonctions à Matignon sans aigreur, dit-il, mais avec de la reconnaissance. Dîner d'adieu hier soir pour Jean Castex et ses ministres réunis rue de Varennes. Le chef du gouvernement attendu dimanche à Rande, à Rome. Dernier voyage officiel avant de remettre sa démission. Son successeur devrait être désigné en début de semaine prochaine dans le Var. Éric Zemmour, en revanche, confirme qu'il sera bien candidat aux législatives.
C'était l'une des critiques adressées à la réforme des lycées, du baccalauréat, les mathématiques feront leur retour dans le tronc commun dès la rentrée prochaine. Problème, il n'y a pas assez de professeurs.
La discipline n'attire plus, il suffit de se pencher sur les résultats du CAPES, le concours pour devenir professeur de maths au collège et au lycée. Près de 200 postes restent à pourvoir, faute de candidats. Schéma qui se répète depuis 10 ans, une pénurie qui trouve en partie son explication dans la faiblesse des salaires. Louise Salé.
Être bon en maths mène à de nombreux métiers mieux rémunérés que celui d'enseignant. Il est donc indispensable d'augmenter les salaires en début de carrière pour s'aligner sur ses autres débouchés. Sébastien Planchenot est président de l'Association des professeurs de mathématiques.
À peu près, il manque 2000 futurs ingénieurs de cybersécurité et vous avez également à peu près 5000 ingénieurs par an qui manqueraient par rapport au vivier actuel. C'est encore plus difficile de recruter de futurs professeurs de mathématiques.
Se former au métier de prof coûte cher, il faut atteindre le niveau Bac plus 5, recruter après la licence pour un master ensuite en alternance pourrait être une solution, tout comme rémunérer les étudiants qui préparent le CAPES via des bourses, c'est ce qu'il se faisait dans les années 1970. Pour Isabelle, enfin, professeure de maths à Paris, il faut revaloriser la matière délaissée par les programmes.
Quand j'ai commencé à enseigner, j'avais 5 heures de maths par semaine avec mes troisièmes. Maintenant, j'ai 3h30. C'est pas beaucoup, avec des classes qui sont plus chargées qu'avant. C'est plus difficile, c'est pas le même métier.
Pour la rentrée, le gouvernement ne s'inquiète pas de cette pénurie de profs. Les académies paieront des heures supplémentaires aux enseignants disponibles.
Louis Salé.
C'est l'une des conséquences de la guerre en Ukraine. Les pénuries, vous le savez, touchent de nombreux secteurs de l'alimentaire, à commencer par l'huile de tournesol. Eh bien, des agriculteurs français se sont lancés dans sa production.
Et peut-être une alternative à cette huile ukrainienne qui manque tant. Le tournesol français, c'est déjà une réalité dans le nord de la France. Dans la région de Cambrai, des agriculteurs n'ont pas attendu la guerre pour planter des tournesols. Ils se sont lancés dans l'aventure il y a 2 ans et les événements récents leur donnent raison. Reportage Lionel Mougelot.
Vous êtes sur la parcelle de tournesol qu'on a semée il y a une quinzaine de jours.
Et pour l'instant, les plants ne font que quelques centimètres, mais en juillet prochain, c'est un champ de 2,5 hectares de tournesol qui changera le paysage. Fabrice Leroy, l'exploitant, s'est lancé dans ce créneau juste avant la guerre en Ukraine et la pénurie d'huile de tournesol.
Oui, tout à fait. La guerre en Ukraine est un facteur amplifiant. Peut-être la spéculation également, mais aujourd'hui, force est de constater que de toute manière, notre huile, on a déjà des contacts pour des achats d'huile. Et demain, on espère effectivement embouteiller notre huile de tournesol.
Au total, ce sont 35 hectares de tournesol qui sont plantés dans les environs. Une fleur qui s'adapte à la région nord du fait du changement climatique et qui cohabite avec le colza déjà traité par la coopérative. Didier Villain, technicien en charge du projet.
Aujourd'hui, sortir de l'huile colza, sortir de l'huile tournesol, ça peut préparer. La crise de la Covid, la crise ukrainienne, finalement on redécouvre les productions qui sont faites sur place et il faut tirer profit de ces affaires-là.
Une production annuelle et locale de 40 tonnes d'huile de tournesol qui reste toutefois marginale face à la pénurie mondiale.
C'est une petite goutte d'huile aujourd'hui, mais ça peut faire une grosse goutte plus tard.
Pour offrir de nouveaux débouchés aux agriculteurs locaux. Avesnes-les-Aubert, Lionel Gougelot, Europe 1.
L'Ukraine, il en sera question aujourd'hui lors de la réunion du G7 en Allemagne. Au menu, les sanctions internationales et leurs conséquences, notamment sur le gaz. Moscou a réduit ses livraisons aux Européens de 40%. L'Allemagne en est la première victime et accuse la Russie d'utiliser l'énergie comme une arme.
Un conflit qui pousse la Finlande et la Suède dans les bras de l'OTAN.
La Finlande sort de sa neutralité et demandera officiellement son adhésion à l'Alliance Atlantique dimanche. Garantie défensive en cas d'attaque russe, la Suède pourrait lui emboîter le pas dans les prochains jours. Réaction de Moscou, les Finlandais doivent s'attendre à des représailles militaro-techniques, autrement dit des cyberattaques.
Une révolution en Seine-Saint-Denis. Le mythique club de football du Red Star passe sous contrôle américain.
777 Partners, c'est le nom de ce fonds d'investissement qui est désormais aux commandes du club basé à Saint-Ouen. Pensionnaire de National, l'équivalent de la 3e division, le Red Star s'est construit sur une image populaire et reste indissociable du monde ouvrier. L'arrivée des Américains n'est pas du goût des supporters historiques. Ils comptent bien le faire savoir ce soir à l'occasion du match face à Concarneau, Cyril de la Morinerie.
Oui, face au Stade Bauer, un bar sans prétention, l'Olympique, le QG des supporters du Red Star. À l'intérieur, des photos vintage de l'équipe et posé sur une table un article évoquant la vente du club à des Américains. Tamila, qui prend son café, n'y est pas favorable.
C'est une équipe populaire, c'est Saint-Ouen, c'est 93.
Et les États-Unis là-dedans ?
Pour moi, ça n'a rien à voir.
Pour ce club aux racines communistes et populaires, c'est une révolution culturelle qui passe mal, poursuit Yacine, le patron du bar.
C'est super contradictoire, c'est pour ça que nous, on n'est pas super chaud pour leur venue. Quoi. Le fonds d'investissement, ils connaissent rien du tout au football.
Mais du côté du club, on se défend d'avoir vendu son âme au diable. L'objectif est d'avoir des moyens pour développer le Red Star tout en conservant son identité, explique son président Patrice Haddad.
Qui aurait la malveillance de détruire 125 ans d'héritage ? Un héritage qui est social, éducatif, d'un club comme le Red Star. Certainement pas le nouveau propriétaire de ce club.
Le Red Star souhaite retrouver la Ligue 2, développer son centre de formation. Quant au vétuste Stade Bauer, il sera rénové d'ici 2 ans.
Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe 1. En Espagne, Karim Benzema un peu plus dans la légende du Real Madrid. Le Français a inscrit l'un des 6 buts madrilènes contre Levante. Avec 323 buts au compteur, il devient le 2e meilleur buteur de l'histoire du Real, à égalité avec une autre légende, Raoul. Et puis en tennis, Rafael Nadal est en plein doute à 10 jours de Roland Garros. L'Espagnol est sorti dès les 8e du final du tournoi de Madrid. Il souffrirait à nouveau du pied, ce pied qu'il avait éloigné des cours pendant plusieurs semaines.
Merci beaucoup pour toutes ces informations, Christophe Lamarre. Les courses à présent, les pronostics du Quintet. Thierry Léger, bonjour Thierry.
Bonjour Julien, direction l'hippodrome de Vincennes pour ce Quintet qui va se courir en nocturne, 16 partants, répartis sur 2 poteaux différents de départ, 2850 et 2875 mètres. Le numéro 2, Faubourg, l'un des moins riches du lot mais certainement pas le moins doué, aura ma préférence. Il enchaîne depuis plusieurs mois les bonnes performances, 4 victoires lors de ses 6 dernières courses, et comme il ne cesse de s'améliorer à chacune de ses sorties, je le crois capable de remporter un nouveau succès. On lui opposera les numéros 11, Fareggio Menuet, d'une régularité de métronome, 15, 55 Bond, 5e d'un quintet similaire le 29 avril à Ruomo-Kanchi, 16, Erasme William, bon finisseur dans ses jours fastes, et 8, Flash de Vély, bien engagé et qui, grâce à sa maniabilité, devrait pouvoir ici accrocher une place à une cote spéculative. Enfin, les numéros 3, Erebor, 14, DiMaggio et 4, Eagle Pass, compléteront ma sélection. Mon pronostic, 2, 11, 15, 16, 8, 3, 14 et 4.
Voilà le quintet du vendredi 13. Pronostic à retrouver sur europe1.fr. Merci Thierry Léger.
Retentissement mondial, celui du producteur Harvey Weinstein.
C'est François qui est mort au milieu.
C'est le premier jour de l'euro.
Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin.
Europe 1. Le jour où, maintenant, les grands faits historiques racontés à travers les archives d'Europe 1.
Et ce matin, direction l'espace. Bonjour, Laure d'Autriche.
Bonjour, Julien. Bonjour, Omblin.
Laure, il y a 30 ans, le 13 mai 1992, 3 astronautes sortaient pour la première fois en même temps dans l'espace pour tenter d'attraper un satellite à la dérive.
Oui, l'un des astronautes tente d'agripper le satellite via un bras articulé, un satellite de télécommunication, pour le ramener dans la soute de la navette. La manœuvre a été répétée des centaines de fois à terre dans une piscine, mais là-haut, l'opération se révèle beaucoup plus délicate que prévu.
Le mécanicien de l'espace a en fait cogné l'arrière du satellite un peu trop fort, lui donnant une oscillation imprévue. Pour ne pas risquer une collision avec la navette qui vaut 2 milliards de dollars, le commandant Don Devour a préféré prendre le large.
C'est une scène digne d'un film de science-fiction. Le satellite fait la taille d'une camionnette et il échappe aux astronautes comme une savonnette. Un essai, un deuxième, puis d'autres. Les ingénieurs dans la salle de contrôle de Houston aux États-Unis se mettent à applaudir, mais c'est un faux espoir encore raté.
Le système de capture, constitué d'une barre de 5 mètres de long, n'a pas pu être verrouillé. Le satellite s'est une fois de plus éloigné, légèrement déséquilibré sous l'impulsion donnée par l'un des astronautes. Une nouvelle et sans doute dernière tentative devrait avoir lieu la nuit prochaine.
Les techniciens ne comprennent pas pourquoi l'opération ne fonctionne pas dans l'espace alors que tous les entraînements au sol étaient parfaits.
Au départ, Laure, le satellite est à la dérive dans l'espace parce qu'il a été mis sur une mauvaise orbite.
Oui, il a été mal lancé 2 ans plus tôt par une fusée défaillante. L'opération de sauvetage coûte à la société propriétaire de ce satellite, Intelsat, 150 millions de dollars. Les ingénieurs réfléchissent pendant 2 jours et la solution, la voilà. Les 3 astronautes américains engoncés dans leur scaphandre réussissent à attraper le satellite à bout de bras. Récit sur Europe 1 du journaliste Albert Ducrot.
Intelsat est à quelques 100 mètres seulement au-dessus de leur tête. C'est vous dire la précision du pilotage. Les 3 hommes doivent au même moment saisir le satellite. Hop ! Opération réussie. Les 3 hommes tiennent le satellite, mais le satellite tourne. C'est la réussite.
C'est historique. Pour la première fois, 3 hommes sont sortis dans l'espace en même temps. L'astronaute français Michel Tonini dira « Nous avons eu la preuve que la présence des hommes dans l'espace est nécessaire et qu'ils ne peuvent pas toujours être remplacés par des robots. »
Merci beaucoup, Laure d'Autriche. C'était le jour où sur Europe 1. Vous restez avec nous. Aujourd'hui, vendredi 13, on va parler superstition.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Votre matinale info sur Europe 1.
Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. Il est tout juste 5h43 sur Europe 1 et nous sommes vendredi. Vendredi 13, un jour important pour les plus superstitieux d'entre nous. Pour certains, cela signifie une seule chose. La poisse sera leur trousse toute cette journée. Pour d'autres, le vendredi 13 porte bonheur. Et d'après une nouvelle étude de l'IFOP, cela concerne près d'un tiers des Français.
Bonjour Abdougnaba.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes anthropologue, directeur de l'agence Sociolab. Le vendredi 13, alors chance ou malchance ?
Le vendredi 13, c'est les deux. C'est les deux parce que c'est un jour qui porte en lui la charge d'une superstition double. Le 13 qui peut porter malheur ou qui peut porter chance, et le vendredi qui en principe porte toujours malheur. Donc en fonction de votre optimisme ou de votre pessimisme, l'un annule l'autre ou l'un se multiplie avec l'autre.
Alors pour qu'on comprenne bien de quoi on parle aujourd'hui, hein, parce que c'est finalement de ça dont il est question, et vous l'avez évoqué, c'est quoi une superstition ?
Une superstition, c'est une sorte de croyance dégradée. Étymologiquement, ça veut dire une survivance, la survivance de croyances qui régissaient la vie des hommes avant que les dogmes, donc les grandes religions, viennent nous donner une vérité acquise. La superstition, c'est tout simplement la croyance entre une cause, un événement extérieur, un signe, un présage, et une conséquence qui est heureuse ou malheureuse.
Conjurer le sort, le mauvais œil ou au contraire les signes porte-bonheur comme le trèfle à quatre feuilles ou l'étoile filante. Pourquoi, Abdougnaba, c'est plus rassurant d'imaginer que nous sommes finalement, j'ai envie de dire, les pantins d'une force supérieure ?
Alors, on pourrait penser que nous sommes des pantins, mais parce que nous acceptons la superstition, nous allons quand même agir. Hein. Vous allez toucher du bois, ou vous allez retourner le pain sur la table, vous allez jeter du sel derrière votre épaule. Vous savez, c'est la phrase d'Einstein, hein, à qui on demandait pourquoi il avait un fer à cheval devant sa porte. On disait, oh, je sais pas, mais ça peut pas faire de mal. Donc il y a quand même cette idée de se sentir appartenir à quelque chose de plus grand que soi. Et ça, c'est définitivement humain.
Ce que vous dites, et c'est important, c'est que le libre arbitre existe encore. On peut être superstitieux et ne pas se laisser guider par des croyances. On est aussi libre de choisir.
La superstition, c'est justement accepter une croyance et agir avec elle. Mmh. C'est plutôt interpréter les signes. C'est de se dire que il y a comme une musique que l'on peut entendre et il faut savoir jouer sa partition au moment où le chef d'orchestre nous dirait de le faire.
Mmh. Alors, plus concrètement, et je reviens à cette étude de l'IFOP, cette nouvelle étude, les jeunes gens sont plus superstitieux, 45% des 25-34 ans. Est-ce qu'il y a une raison pour cela ? Pourquoi les plus jeunes, à votre avis ?
Alors, il n'aura échappé à personne qu'on vit dans un monde assez angoissant. Et la superstition a quand même ce bénéfice de nous donner une illusion de contrôle et donc finalement de calmer notre angoisse. Ce que l'on voit chez les jeunes, c'est ce que l'on a pu analyser déjà dès 1982 avec les sportifs de haut niveau. Ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes, sur leur technique, sur leur entraînement et sur leur talent. Et pourtant, quasiment tous, en tout cas tous les plus grands, ont toujours des rituels très précis et des croyances qui leur permettent de se sentir appartenir à quelque chose de plus grand qu'eux et d'être porté par une force surnaturelle.
Qu'est-ce qui nous pousse à vouloir absolument savoir ce qui nous attend, même si on sait que ce n'est pas possible, on n'a pas de boule de cristal. Qu'est-ce qui nous pousse à croire que tout est écrit quand on lit, par exemple, notre signe astrologique le matin ?
Il n'y a pas plus égocentrique que l'horoscope. Et en même temps, ça a son utilité. Parce que finalement, vous allez lire quelque chose qui parle d'un grand nombre de personnes. Hein. Chaque signe est bien multiple. Nous sommes plusieurs à être cancer, capricorne, etc. Et pourtant, vous aurez l'impression que ça parle de vous. C'est donc que ça vous met dans une situation narrative. Vous êtes le héros de votre propre vie. Et voilà que vous allez croire que l'auteur va vous donner des signes de ce qui va se passer juste après. Là encore, on calme l'angoisse et en même temps, on se sent dans le contrôle et quelque part un peu l'écrivain de sa propre histoire.
Alors la science avance, on pouvait expliquer les croyances quand on n'avait pas d'explication physique ou mathématique, on n'arrête pas le progrès comme on dit aujourd'hui. Et pourtant d'après encore cette étude de l'IFOP, 32% des Français croient en la voyance. Ils étaient 21% en 2000. Donc on note quand même cette franche augmentation en l'espace de 20 ans. C'est étonnant.
Une analyse sociologique nous permet de comprendre cette augmentation de croyance en la voyance. on a beaucoup de mal à se projeter sur des lendemains meilleurs. Le futur qu'on nous promet est au mieux catastrophique, au pire apocalyptique. Nous sommes donc dans une situation d'angoisse qui tue l'action. Eh bien, la voyance, c'est porté dans le mot, c'est l'idée de pouvoir voir ce qui va se passer et finalement d'imaginer. Car rappelez-vous que dans la voyance, on ne se rappelle jamais que des choses qui sont bonnes. Les choses moins bonnes seront dites pour pouvoir être évitées.
Alors après tout ce qu'on vient de se dire, ces dernières minutes, finalement il y a un mot qui revient souvent, c'est la peur qui nous régit, qui régit nos croyances, qui laisse la superstition prendre sa place. Finalement c'est ça qui revient quand vous parlez de voyance. La peur de quoi? La peur de demain?
La peur de pas savoir ce que l'on fait sur Terre, la peur de pas savoir ce qu'il y aura après le demain, et la science elle-même ne peut échapper à la métaphysique quand elle va au bout d'elle-même. Il y a, dans notre société, une volonté de cacher ces questions existentielles, et pourtant, elles doivent ressortir d'une façon ou d'une autre. Elles ressortent donc par des rituels, par des croyances anciennes, à un ordre bien établi, et qui nous permettrait, si on était assez sage et initié, d'échapper au pire et en tout cas de croire au lendemain. Il est essentiel de croire, je ne dis pas un dogme, mais anthropologiquement c'est un constat, Sapiens est un être de croyance et c'est un être de fiction.
Merci beaucoup Abdou Gnaba d'avoir accepté de répondre à nos questions sur Europe 1 ce matin et de nous avoir éclairé sur toutes ces différentes superstitions ce vendredi 13. Je rappelle que vous êtes anthropologue, directeur de l'agence Sociolab et ce vendredi 13 est l'unique de cette année 2022 d'ailleurs. Merci beaucoup encore et bonne journée.
Merci.
Europe Matin.
Ombline Roche et Julien Pierce.
5h49, 6h moins 10 même, l'essentiel de l'actualité avec Johan Trix.
Jean-Luc Mélenchon renonce à Marseille. Le chef de file de la France Insoumise ne sera pas candidat aux législatives dans la cité phocéenne. À sa place, Manuel Bompard, son directeur de campagne. Pas très loin dans le Var, Éric Zemmour sera bien lui candidat, région où il a fait les meilleurs scores à la dernière élection présidentielle. Il n'y aura plus besoin de cocher si vous avez une télévision dans votre maison sur la déclaration de revenus. 2022 marque la fin de la redevance télé. La promesse de campagne d'Emmanuel Macron va entrer en application dès la rentrée pour un coût annuel de 3,2 milliards d'euros pour l'État. L'ancien mentor d'Antoine Griezmann mis en examen, Eric Olatz a été placé en détention provisoire pour atteinte sexuelle sur mineur. Trois anciens jeunes de son ancien club, l'Aviron Bayonnais, ont porté plainte. Et puis Rafael Nadal éliminé dès les huitièmes de finale à Rome, le tennisman espagnol battu par le Canadien Chapovalov, mais surtout blessé au pied gauche. Mauvaise nouvelle à 10 jours de Roland Garros.
Allez, place à la musique.
Bonjour Stéphanie Loire.
Bonjour à tous, bonjour Ombline, bonjour Julien. Ce matin, vous nous présentez le nouvel album d'un phénomène de la musique anglo-saxonne, le groupe Florence and the Machine. Un groupe au sein duquel on entend surtout la voix de Florence Welch et qui s'est fait un nom grâce à quelques titres très remarqués, comme l'excellent Dog Days Are Over sur leur premier album Lungs, c'était en 2009. Florence, sa chevelure flamboyante couleur feu et son groupe font leur retour avec Dance Fever, un cinquième album sur lequel la chanteuse évoque ses relations avec le public, la féminité et son rapport au genre dans la musique. Quatre titres extraits de cet album ont déjà été publiés, King, Heaven is Here, My Love et Free, dont clip met en scène d'ailleurs l'acteur Bill Nighy dans le rôle de l'anxiété de Florence. Florence and the Machine, c'est un style qui évoque à la fois la pop anglaise de Kate Bush, de PJ Harvey, qui sonne aussi dans cet opus parfois comme Eurythmics, qui nous fait voyager parfois du côté de la soul, période Motown, hein, s'il vous plaît. Dance Fever, c'est un disque écrit et enregistré pendant le confinement qui fait la part belle aux instruments avec des percussions, des synthés, des cordes dans un esprit très folk, vous l'entendez, typiquement britannique. L'imagerie et les clips de l'album s'articulent autour de la passion de Florence Welch pour la manie dansante. Alors la manie dansante, c'est une pratique observée entre le 14e et le 18e siècle qui consistait à l'époque en des réunions au cours desquelles les participants dansaient jusqu'à l'épuisement, voire parfois la mort des soirées où l'expression « danser à mort » devait prendre tout son sens. Un album que l'artiste va défendre sur scène avec son groupe lors d'une tournée européenne qui passe par l'Accor Arena de Paris-Bercy. Ce sera le 14 novembre et ce sera une date unique en France.
Dance Fever, le cinquième album studio de Florence and the Machine, est donc disponible depuis ce matin.
Une dernière actu musique avant de se quitter, Stéphanie.
Oui, une actu musique qui concerne Maneskin, le groupe de rock italien gagnant de l'Eurovision 2021, qui est depuis sur l'autoroute du succès. Il s'est offert une collaboration avec Iggy Pop. Il était nommé aux Brit Awards dans plusieurs catégories, en face de Justin Bieber, The Weeknd ou encore ABBA, rien que ça. La finale de l'Eurovision 2022, elle aura lieu demain, samedi 14 mai à Turin. Elle sera retransmise en direct sur France 2 dès 21h. Et c'est Maneskin qui va ouvrir le show avec Supermodel, un nouveau single entêtant que je vous laisse découvrir sur Europe 1.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
5h56, dans un instant, la météo, le journal et votre invité Julien.
Stéphane Pesse, directeur de recherche à l'INRAE, qui pendant 2 ans a synthétisé 4000 études scientifiques avec ses collègues sur l'impact des pesticides sur la biodiversité et les écosystèmes. Un travail colossal dont la conclusion, dévoilée il y a quelques jours, fait froid dans le dos. On pourrait la résumer ainsi. Les produits phytosanitaires s'immiscent partout. On en retrouve dans l'air, même à plus de 3000 mètres de profondeur sous nos océans. Résultat, ils sont l'une des causes majeures de l'effondrement de nombreuses espèces. Il faut donc réagir vite. Oui, mais comment se passer de pesticides à l'heure où les cours des denrées agricoles explosent et qu'on demande à nos agriculteurs de produire davantage? Existe-t-il des alternatives viables ou à défaut de nouvelles pratiques à adopter? Eh bien, on va en parler dans une dizaine de minutes avec notre invité. Et juste après, Omblin, on écoutera votre partition.
Un jeune prodige devenu un génie absolu de la soul. Aujourd'hui, on retournera à ses débuts dans 20 minutes lorsqu'il intègre la maison du disque Motown et qu'on l'appelle alors Little Stevie Wonder.
Et une big météo avec Anissa Dadjib. Encore quelques nuages ce matin.
Oui, entre le massif central et le Jura, c'est vrai que sur le centre, le nord-est, on a des nuages qui restent bien présents encore ce matin et tout au long de la journée, avec toujours un risque d'averse près des reliefs. Partout ailleurs, c'est vrai qu'on a un temps très agréable pour ce vendredi 13 mai. Ce matin, entre la Bretagne et la Normandie, soyez prudents, on a quelques bandes brouillard qui vont très vite se dissiper. Et puis cet après-midi, c'est le soleil qui domine. Alors là où il va le plus briller, c'est sur la moitié nord du pays, entre la Bretagne et l'Alsace, il n'y a pas une région qui verra un nuage aujourd'hui au nord de la Loire. Le ciel est bleu azur et le soleil règne en maître. Sur la moitié sud, on a toujours cette petite instabilité qui va s'installer sur les Pyrénées avec des averses entre le Mercantour et les Cévennes. Mais dans le sud, c'est assez lumineux également. Alors côté température, ce matin, va falloir se rhabiller un peu. On a 3 degrés à Charleville-Mézières, 7 à Vannes, 8 à Nantes, 10 à Paris, 16 à Strasbourg et cet après-midi, 15 à Boulogne-sur-Mer, 16 à Dieppe, 22 à Nice et Clermont, 23 à Paris et jusqu'à 29 degrés pour Draguignan.
On jette un œil au week-end.
Alors oui, le week-end. Bah écoutez, avec un vendredi comme ça, le week-end s'annonce plutôt bien, ensoleillé sur la majeure partie des régions. Attention, sur la moitié sud, on va vivre une chaleur lourde samedi et dimanche avec plus de 31 degrés dans le sud-ouest et puis des orages qui éclatent alors samedi sur les Pyrénées et les Alpes et dimanche en Bretagne.
Merci infiniment Anissa Haddadi pour cette météo complète. Vous écoutez Europe 1 et on vous en remercie. Nous sommes le vendredi 13 mai et il est 6h. La Finlande tourne le dos à la Russie et regarde vers l'Ouest. Le pays scandinave souhaite adhérer à l'OTAN au plus vite, un revirement lié à la politique agressive de Moscou. Comment Helsinki peut-il se protéger? On vous explique tout dans un instant. Éric Zemmour se lance, Jean-Luc Mélenchon renonce à un mois des législatives. La liste des candidats se précise. Le leader insoumis, lui, prépare déjà sa succession. Et puis, des plumes, des lumières, des revues en petite tenue, tout ça c'est terminé. Le Lido, mythique cabaret, va fermer. La plupart des emplois seront supprimés.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Et à 6h, le journal vous est présenté par Roman Oquet. Bonjour Roman.
Bonjour à tous. Une riposte militaro-technique. La Russie menace la Finlande, pays aux portes de l'OTAN. L'État scandinave souhaite intégrer l'Alliance Atlantique sans délai pour renforcer sa sécurité face à l'agressivité de son voisin.
La Finlande qui partage 1300 km de frontières avec la Russie.
Cette adhésion à l'OTAN serait donc un bouleversement géopolitique 74 ans après le traité d'amitié signé entre Helsinki et Moscou. Les trois quarts des Finlandais d'abord réticents, ils sont même favorables pour se protéger de la Russie. Un allié devenu une menace depuis le début de la guerre en Ukraine, Caroline Baudry.
Oui, en rejoignant les rangs de l'OTAN, elle s'assure une défense collective. C'est le fameux article 5, fondateur de l'Alliance militaire. Une attaque contre l'un des pays membres est considérée comme une attaque contre tous, les 30 pays, leurs armées et les 40 000 hommes de la force de réaction rapide de l'OTAN. Une fois la Finlande officiellement candidate, probablement dimanche, s'ouvre une période d'adhésion. Les parlements de chacun des pays membres doivent approuver la demande, mais cela peut prendre de longs mois. Une attente durant laquelle la Finlande ne bénéficie pas de la défense mutuelle. En attendant, le pays a, comme la Suède, signé un accord avec le Royaume-Uni mercredi. Il garantit un secours britannique en cas d'attaque. Le patron de l'OTAN a lui promis un processus d'adhésion rapide de la Finlande, qui peut aussi compter sur la clause de défense mutuelle de l'Union européenne.
Caroline Baudry a noté que les consultations ont démarré hier à Helsinki. Une demande d'adhésion à l'OTAN que la Suède devrait aussi formuler ce dimanche.
Ce n'est qu'un au revoir. Dîner d'adieu hier soir à Matignon. Jean Castex a réuni les 41 membres de son gouvernement.
Les deux ministres rejoignent d'ailleurs la course aux législatives. Investiture présentée hier par la majorité présidentielle. Barbara Pompili a choisi la Somme. Elisabeth Moreno tente sa chance dans une circonscription des Français de l'étranger, au Maghreb et en Afrique de l'Ouest.
Éric Zemmour, lui, se lance dans le Var.
L'ex-candidat redescend donc dans l'arène électorale pour les législatives, cap sur la 4e circonscription du département, dont la ville de Saint-Tropez. Un territoire où il avait obtenu l'un de ses meilleurs scores à la présidentielle, 15% des voix au premier tour. Un choix qu'il a annoncé hier sur une plage de Cogolin près de Saint-Tropez.
Il ne faut pas réduire à cette caricature. Il y a de tout ici. Il n'y a pas seulement Saint-Tropez, il n'y a pas seulement des riches dans des grands bateaux. Il y a aussi des gens plus modestes, il y a des classes moyennes, il y a des gens qui travaillent. Il y a des villas de milliardaires et il y a aussi des HLM et des logements sociaux. C'est ça qui est intéressant.
La soirée donc sur une plage du Var dans le camp Reconquête, la France Insoumise organisait elle un apéro populaire à Marseille.
Autour d'un verre, Jean-Luc Mélenchon a annoncé qu'il ne se représenterait pas dans sa circonscription des Bouches-du-Rhône. Alexis de La Fontaine, le leader insoumis, organise par la même occasion sa succession.
Oui, passer la main, voilà la volonté de Jean-Luc Mélenchon. Après avoir formé une nouvelle génération, le leader insoumis laisse la place. Écoutez-le s'amuser de la passation.
Alors monsieur Mélenchon, pourquoi vous n'êtes pas candidat à la législative? Que c'est Bompard qui va être candidat. Dans les insoumis, c'est une des figures parmi les plus éminentes de la nouvelle génération.
C'est donc Manuel Bompard, son plus fidèle camarade, qui hérite de son siège. Mais pour le leader insoumis, ne pas être candidat, c'est un moyen de se retrouver au-dessus de la mêlée pour porter la bataille au niveau national face au président, affirme un insoumis. Projet contre projet donc, car Jean-Luc Mélenchon ne se résigne pas à sa défaite du premier tour de la présidentielle. Persuadé que son programme est majoritaire, il espère en retour imposer une cohabitation à Emmanuel Macron. Mais pour cela, il doit réussir à se détacher des polémiques, comme les accusations de violences sexuelles contre Taha Bouafs qui bousculent la France insoumise et donc ne pas être candidat.
Alexis de La Fontaine du service politique d'Europe 1.
6h04, pourrait-il s'agir d'un appel à l'aide? La Corée du Nord a annoncé son premier décès lié au Covid cette nuit. Le virus s'est d'ailleurs répandu dans tout le pays selon Pyongyang. 187 000 personnes sont soignées car non vaccinées. La dictature a refusé l'aide internationale pour la campagne de vaccination.
Et en France, 37 000 nouveaux cas sont détectés chaque jour. En moyenne, ce matin, c'est peut-être peut-être votre dernier trajet avec votre masque chirurgical. Dès lundi, il n'est plus obligatoire dans les transports publics.
Et oui, un long chemin parcouru depuis, souvenez-vous, le premier confinement au printemps 2020. Deux mois, enfermés à la maison. Julien, est-ce que vous vous étiez découvert à ce moment-là un talon caché ?
Non, aucun.
Le tricot, dans la pâtisserie, le ping-pong, il y avait le choix. Hein. Vraiment, on avait des heures à tuer.
Un peu de menuiserie.
Un peu de menuiserie, d'accord, original. En tout cas, grâce au confinement, les Français, peut-être comme vous, Julien, donc, sont devenus plus créatifs. C'est ce que révèle une étude des chercheurs du CNRS, de l'INSERM et de l'Institut du Cerveau. 400 personnes ont répondu à un formulaire. Et Yasmina Katou, chez eux, les Français ont donc développé leur esprit créatif.
Oui, pour ne pas s'ennuyer entre quatre murs, il a bien fallu faire jouer son imagination pour passer le temps. Pendant le premier confinement, beaucoup d'entre nous se sont remis à la pâtisserie, à la cuisine, au sport ou au jardinage. Ce qui explique ce changement de comportement, c'est l'effet de surprise, dit Théophile Biette. Il est neurologue et co-auteur de l'étude.
Le côté inédit de la situation a permis de générer des comportements créatifs différents. Il y a effectivement un facteur de motivation qui a fait qu'on a voulu aussi faire face à ces problèmes qui étaient nouveaux et essayer de les résoudre, ce qui a probablement aussi participé à engendrer une augmentation de créativité.
Le temps libre obtenu grâce au confinement a aussi permis de développer notre créativité. Les chercheurs précisent qu'il s'agit bien là du tout premier confinement. Pour les confinements qui ont suivi, le résultat de l'étude aurait été différent, disent les spécialistes. L'isolement répété a été vécu difficilement par les Français.
Yasmina Katou, spécialiste santé d'Europe 1. Julien Blin, est-ce que vous avez votre tenue ? Je vous préviens, c'est smoking, robe de soirée obligatoire. Je vous emmène dans l'un des symboles de la nuit parisienne.
C'est la fête à Paris. Les plus belles nouvelles, les voici.
Voilà, la fête du Lido, ses plumes, ses strass, ses talons aiguilles, bah, c'est bientôt terminé. Le cabaret des Champs-Élysées, créé en 1946, va devenir une simple salle de spectacle sans troupe permanente. La quasi-totalité du personnel va d'ailleurs être licenciée. Décision du groupe Accor, propriétaire du lieu qui n'est plus rentable. Notre reporter Zoé Pallier a rencontré les Parisiens et les touristes venus profiter de l'un des derniers spectacles hier soir.
Il lève des yeux pétillants vers la devanture dorée du Lido. Yves est venu applaudir ses danseuses aux couronnes de plumes et aux jambes interminables. Incrédule quand il apprend qu'elle devrait bientôt ne plus monter sur scène.
C'est comme si on nous démontait la Tour Eiffel. Ça fait partie des symboles de la France. La preuve, regardez le monde qu'il y a.
La file s'étend en effet sur une dizaine de mètres. Au milieu, Ali et sa famille, venus de Californie.
Ma mère m'a amenée au Lido il y a 13 ans. Je voulais y revenir avec mes filles pour qu'elles le découvrent aussi.
Je suis triste parce que je voulais y revenir à l'avenir. Mais je suis aussi excitée de voir un des derniers shows avant la fermeture.
Sous le discret panneau qui indique l'entrée des artistes, Thierry et son collègue sont assis à même le bitume. La direction veut les former à de nouveaux postes. C'est la fin de notre identité, regrette le technicien.
C'est pas comme n'importe quelle entreprise. Notre vocation, c'est de transmettre du rêve et du plaisir aux gens. Vous imaginez qu'est-ce qu'ils ont décidé de casser là ? C'est douloureux.
Bah, carrément. Moi, ça fait 33 ans que je suis là. Je suis arrivé à 18 ans de ma province et tout. On connaît que ça, moi je vais faire que ça.
Un soupir et il s'apprête à retourner à l'intérieur du bâtiment, car il faut bien continuer à assurer le spectacle pendant les 3 mois que dureront les négociations.
Le reportage de Zoé Pallier.
Et c'était le journal de Roman Hockey. Merci beaucoup, Roman.
On passe au sport à 6h07.
Passionné de sport, toute l'actu pour bien parier sur Europe 1 avec Winamax. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Le journal des sports avec vous, Martin Lange. On commence avec l'info de la nuit. Raphaël Nadal blessé à une semaine du début de Roland Garros.
Oui, le recordman de victoire Porte d'Auteuil a été éliminé hier en 8e de finale du Master de Rome par le Canadien Shapovalov. Un résultat loin, très loin de ses standards habituels. La faute à ses douleurs récurrente au pied. Difficile de savoir dans quel état sera Nadal dimanche prochain pour le début des internationaux de France.
On passe au foot, Martin, avec une vente qui fait beaucoup parler.
Oui, le Restart, le club de Saint-Ouen, pensionnaire du mythique Stade Bauer, appartient désormais à un fonds américain, 777 Partners, une vente qui rend fou les supporters très attachés à l'identité de leur club. Mais le président Patrice Haddad défend son choix.
Qui aurait la malveillance de détruire 125 ans d'héritage ? Un club comme le Restart n'est certainement pas, je peux vous le garantir, certainement pas moi. Et certainement pas le nouveau propriétaire qui a perçu la singularité de ce club.
Patrice Haddad au micro de Cyril de la Morinerie, le Red Star qui accueille ce soir Concarneau en national, l'équivalent de la 3e division.
Un mot de cyclisme et nouvelle victoire pour Arnaud démarre sur le Tour d'Italie.
Oui, 2 sur 2 pour le Français, vainqueur en Sicile mercredi, il a remis ça hier dans les Pouilles pour un cheveu et à la photo finish face à l'Australien Caleb Ewan, mais le sprinter de la Groupama FDJ est en confiance.
J'ai senti que je revenais vraiment fort, mais que ça allait être limite pour la victoire. Et puis finalement, je jette le vélo et voilà, c'est la différence. Et je sais que c'était limite, mais c'est une victoire, c'est génial.
Arnaud Démarche et nos confrères d'Eurosport qui en profitent pour devenir le Français le plus victorieux sur le Giro avec pas moins de 7 victoires d'étape.
Enfin, pour finir, Martin.
Du handball et Montpellier dos au mur en quart de finale de la Ligue des Champions. Les Héroletais ont été battus hier à domicile par Kielce. Il leur faudra un exploit la semaine prochaine en Pologne. Et enfin, du hockey sur glace avec le début des championnats du monde en Finlande. Profitant de l'exclusion de la Russie et de la Biélorussie, les Bleus ont été repêchés et ils affrontent la Slovaquie cet après-midi.
Merci Martin, le journal des sports de Martin Lange.
Restez avec nous dans un instant. Une nouvelle étude sur l'impact colossal des pesticides sur la biodiversité et les écosystèmes. À tout de suite.
5h, 6h30.
Europe Matin.
Il est 6h11. Merci d'écouter Europe 1. Votre invité Julien est directeur de recherche en écotoxicologie à l'INRAE, l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement.
Bonjour Stéphane Pess.
Bonjour et merci de m'accueillir.
Merci à vous d'être en ligne avec nous. Je tenais à ce qu'on vous entende ce matin parce que vous êtes l'un des chercheurs qui a travaillé sur une vaste expertise dévoilée il y a quelques jours de cela, une synthèse de quelques 4000 études scientifiques sur l'impact des pesticides sur la biodiversité et les écosystèmes. Alors on savait déjà qu'ils dégradent nos sols et sont extrêmement nocifs pour les insectes, mais ce que vous nous apprenez, c'est que ces produits phytosanitaires polluent à 360 degrés. On les retrouve partout, Stéphane Pess ?
Exactement. Alors, si vous le permettez, je voudrais juste dire un petit mot pour préciser un petit peu ce que nous avons fait, puisque ce type d'expertise est quand même assez original. Donc, elle a été commanditée par trois ministères, respectivement en charge de la transition écologique, de l'agriculture et de l'alimentation et de la recherche. Elle a été commanditée à INRAE et l'IFREMER, et elle a mobilisé en fait 46 experts scientifiques pendant près de 2 ans, répartis dans 19 organismes de recherche, et comme vous l'avez dit, nous avons analysé plus de 4000 articles scientifiques. Et donc ce travail colossal nous a permis en effet de mettre en évidence le fait que la contamination, même si elle est principalement d'origine agricole, elle va se retrouver dans l'ensemble des milieux, dans l'ensemble des matrices qui composent ces milieux, par exemple dans les milieux aquatiques, on va les retrouver à la fois dans les eaux de surface et dans les sédiments. Et on va en effet retrouver des substances à des distances très éloignées de leurs sources, hein, puisqu'on en retrouve même dans les fonds marins. Des substances qui ont été interdites depuis plusieurs décennies sont trouvées à l'état de trace, y compris dans des organismes qui se trouvent dans ces fonds marins.
À plus de 3000 mètres de profondeur, ça paraît totalement incroyable.
Exactement. Alors, il faut garder quand même à l'esprit qu'on est vraiment à l'état de trace hein, dans ces écosystèmes éloignés, mais ça montre bien qu'il y a une diffusion à la fois dans le temps et dans l'espace.
Ce que vous nous décrivez là, c'est le résultat d'une utilisation massive de ces produits, entre 55 000 et 70 000 tonnes déversées chaque année en France, c'est ce que nous apprend aussi votre étude. Mais est-ce que c'est aussi l'illustration de l'impact à long terme de certains pesticides, de leur rémanence ?
Alors, cette notion de rémanence, elle est en effet très importante, puisque la littérature scientifique qui est encore produite à ce jour fait état de contamination de substances très anciennes qui, heureusement, ont pour la plupart été interdites à présent, puisqu'elles ont justement été interdites du fait de ces propriétés de rémanence et du fait aussi que souvent ces substances-là étaient très toxiques. Donc les substances qui sont utilisées aujourd'hui sont théoriquement moins rémanentes et elles devraient rester moins longtemps dans l'environnement, mais évidemment, on n'a pas encore le recul scientifique qui permet de le vérifier.
Est-ce qu'au regard des conclusions de votre étude, vous diriez que les pesticides sont l'une des causes majeures de l'effondrement du vivant dans nos écosystèmes?
Alors, clairement, les pesticides sont un des responsables de cet effondrement. Mais si on se base sur les études qui sont faites dans ce domaine-là, et notamment celle de l'IPBES, hein, qui est la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques, la pollution en général, donc qui inclut celle par les pesticides, mais pas uniquement, est estimée comme étant le troisième ou quatrième facteur de l'effondrement de la biodiversité. Les plus importants sont en fait tout ce qui va être changement d'utilisation des terres et des mers, hein, qui va limiter et entraîner des pertes d'habitat. On va avoir la surexploitation des espèces et bien évidemment aussi le changement climatique.
Alors ces produits peuvent donc tuer, hein, puisqu'on constate la baisse drastique de certaines populations, je pense notamment aux abeilles, mais ils peuvent aussi avoir un effet peut-être plus insidieux, agir comme une sorte de poison lent, c'est ça ?
Exactement. Nos travaux ont permis de montrer que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les substances les plus toxiques qui tuaient, on va dire, rapidement les organismes ont heureusement été éliminées. Mais par contre, les substances qu'on retrouve actuellement vont avoir des effets qu'on appelle sublétaux, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des effets qui vont être plus lents, qui vont parfois même se transmettre aux générations suivantes. Donc parmi ces effets, on peut trouver par exemple une augmentation de la vulnérabilité des organismes aux maladies ou aux parasites, ou alors des changements de comportement qui peuvent impacter les populations, hein, comme par exemple des difficultés à se reproduire, à s'alimenter, ou des pertes d'orientation ou de capacité de vol qui peuvent avoir des perturbations très fortes pour les oiseaux ou les chauves-souris par exemple.
Bon, maintenant qu'on a dit tout ça, Stéphane Pesse, on fait quoi ? Parce qu'une agriculture sans pesticides, ça paraît aujourd'hui totalement illusoire, a fortiori dans le contexte actuel avec la guerre en Ukraine qui menace les approvisionnements en denrées agricoles. On demande à nos agriculteurs, en clair, de produire davantage. Est-ce qu'il existe des alternatives viables à tous ces produits ?
Alors, dans le cadre de notre expertise, on n'est pas allé jusque au levier en termes de pratique, mais je vais vous rassurer tout de suite pour vous dire qu'il y a quand même des choses qui sont faites dans ce domaine-là, puisqu'il y a une autre expertise en cours qui rendra ses conclusions en octobre, qui concerne tout ce qui va être gestion des couverts végétaux pour la régulation naturelle des bioagresseurs, donc comment on élimine les bioagresseurs en se passant de substances chimiques. Et puis, INRAE porte aussi un programme prioritaire de recherche qui s'appelle « Cultiver et protéger autrement », où pour lequel, en fait, il y a des chercheurs qui travaillent actuellement pour trouver des alternatives et justement réussir à se passer de ces produits chimiques. Nous, par contre, dans le cadre de notre travail, on a quand même montré qu'il y avait des leviers qui existaient, en particulier au niveau du paysage, hein, c'est-à-dire que la gestion des paysages est aussi très importante pour limiter les impacts, puisque les aménagements qu'on peut trouver dans ce paysage peuvent d'une part permettre de réduire les transferts des substances, c'est-à-dire essayer de les cantonner dans les zones où elles sont utilisées, hein. On a par exemple des haies, des bandes enherbées ou des mares qui permettent de servir de zone tampon. Et puis on a aussi montré l'importance d'avoir des zones qu'on appelle zones refuges, c'est-à-dire de préserver des zones non contaminées pour servir en fait de réservoir d'espèces qui peuvent ensuite recoloniser les milieux une fois que la contamination disparaît ou diminue. Donc ça, c'est très important d'avoir cette notion du paysage à l'esprit pour limiter les effets.
Mais est-ce que ces notions-là, nos agriculteurs les ont à l'heure actuelle ? Est-ce qu'ils savent qu'en plantant une haie éventuellement, et ils vont limiter les contaminations des produits qu'ils répandent sur leur culture ?
Alors oui, en effet, il y a beaucoup de communication, il y a certaines même mesures réglementaires, hein, il y a des obligations, par exemple, on sait qu'il y a la nécessité de laisser des bandes enherbées à proximité immédiate des cours d'eau. Par contre, ce que démontre notre travail d'analyse de la littérature, c'est que on est de mieux en mieux capable d'être clair concernant les consignes à respecter, notamment en termes de dimensionnement ou de positionnement de ces zones tampons. Donc aujourd'hui, on a des solutions concrètes à proposer aux agriculteurs pour essayer de limiter la dispersion des produits phytopharmaceutiques ou des pesticides, puisque vous avez utilisé ce terme, au moment de leur utilisation. Et encore une fois, je rappelle qu'il y a des travaux qui sont faits en parallèle pour essayer de réduire cette utilisation.
Pourquoi est-ce que cette méta-analyse, cette synthèse des études disponibles était nécessaire ? Parce que ce travail a déjà été fait, je crois, à deux reprises, en 2005 et 2008 ?
En effet, 2005, il y a eu une première expertise qui s'appelait Pesticides, Agriculture et Environnement, et 2008, une seconde qui s'appelait Agriculture et Biodiversité, mais là, on se replace presque 15 ans en arrière, et il y a beaucoup de choses qui ont évolué hein, depuis 15 ans, notamment en termes de substances utilisées, puisque on estime que plus de la moitié des substances qui étaient utilisées en 2005 ne le sont plus aujourd'hui, donc on a eu un remplacement des substances. Et puis également, la science a beaucoup progressé, à la fois pour caractériser la contamination des milieux, hein, les analyses chimiques sont de plus en plus performantes, donc on a une vision de plus en plus large de la contamination. Et puis, en termes d'effets, on a parlé tout à l'heure hein, des effets sublétaux, des effets à long terme. C'est des choses qui étaient moins prises en considération dans la communauté scientifique. Tout ce qui va être aussi effet indirect. Par exemple, un oiseau insectivore ne va pas forcément être contaminé directement par les polluants, par les pesticides, mais par contre, il va se retrouver privé de sa ressource alimentaire puisque certains insecticides vont entraîner un déclin des insectes, ce qui va faire que l'oiseau ne va plus trouver sa nourriture.
Donc c'est ça, un effet boule de neige.
Exactement. Donc ça, c'est des choses qui étaient aussi moins prises en compte il y a 15 ans. Et puis aussi, une notion importante hein, dans notre expertise, la notion de service écosystémique, de fonctionnement des écosystèmes. Donc quelque chose aussi d'assez récent au niveau de la science, hein, puisque la notion de service écosystémique, elle a une quinzaine d'années à peu près. Donc vous voyez, c'était l'époque de la dernière expertise. Donc voilà, beaucoup de choses qui ont évolué à la fois au niveau des pratiques.
Qui rendait nécessaire l'actualisation et cette nouvelle méta-analyse que vous avez donc publiée il y a quelques jours de cela et qui est un travail extrêmement précieux. Merci beaucoup. Merci beaucoup Stéphane Pesse, directeur de recherche à l'INRAE, d'avoir répondu à nos questions ce matin. Je vous souhaite une excellente journée.
Merci vous aussi, au revoir.
Europe Matin.
Omblin Roche et Julien Pierce.
À 6h20, les titres de l'actualité, Johan Trix.
Un dîner qui marque la fin du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Jean Castex a dit adieu à ses ministres lors d'une garden party à Matignon hier soir. Enfin, des adieux pour certains, d'autres des au revoir. Quel avenir pour chacun? Le point dans le prochain journal. La menace de la Russie à la Finlande. Le pays nordique a décidé de demander son adhésion sans délai à l'OTAN. Moscou menace de riposte militaro-technique sans précision. 1300 kilomètres de frontières sont partagés entre les deux pays. C'est tout le monde chez soi en Corée du Nord. Confinement total après un premier mort officiel du Covid dans le pays. Des centaines de milliers de personnes fiévreuses ont été placées à l'isolement.
On termine en musique, on bline avec votre partition et un anniversaire. Stevie Wonder fête aujourd'hui ses 72 ans.
Oui, c'est l'une des dernières grandes icônes de l'âge d'or de la soul, Julien. Ami proche d'Aretha Franklin, il a chanté avec Ray Charles, il a partagé les mêmes studios à Détroit, chez Motown avec Marvin Gaye. Lors d'une interview en 1970, Stevie Wonder explique ne pas vraiment comprendre pourquoi on le place dans la catégorie des chanteurs de musique soul. Chanter de la soul, c'est chanter avec son âme. Et Frank Sinatra, lui aussi, chante avec son âme et avec ses émotions. Very superstitious.
Stevie Wonder reste dans l'inconscient collectif comme l'un des grands génies de la soul, un révolutionnaire de la musique noire aux États-Unis.
Oui, avec une capacité impressionnante de création et d'innovation, la longévité de sa carrière, semée d'embûches pourtant, parle pour lui.
Oui, parce que sa vie commence par un drame.
Oui, né trop tôt, il est placé dans une couveuse dont un mauvais réglage le prive d'oxygène et le rend aveugle. Steveland Morris vit à Détroit dans les années 50. Il découvre le rhythm and blues à la radio et son idole s'appelle Ray Charles. Le jeune Stevie apprend le piano, joue de l'harmonica, de la batterie et à 10 ans, avec un petit camarade, ils forment le duo Stevie and John, John Glover, et il se trouve que le cousin de ce John est membre du groupe The Miracles, l'un des groupes stars du label Motown de Détroit.
Le patron de la Motown, Berry Gordy, impressionné par le talent de ce si jeune musicien, lui fait signer d'emblée un contrat.
Oui, il lui trouve un surnom, comme l'époque le préconise, il sera Little Stevie Wonder. Alors, ça commence tout doucement, des 45 tours qui passent inaperçus, jusqu'à l'étonnant fingertips qu'on entend. Là, c'est un live, un instrumental à l'harmonica qui devient le succès de l'été 1963.
À l'âge de 16 ans, Stevie Wonder laisse tomber le Little qui n'est plus vraiment approprié à son statut de chanteur adolescent.
Les responsables de la Motown qui depuis quelques années veulent convaincre Berry Gordy de se débarrasser de sa jeune recrue tentent une fois de plus de le renvoyer chez lui à cause de sa voix qui mue. Mais Stevie Wonder va faire un joli pied de nez à ses ennemis grâce à une succession de best-sellers.
Et grâce à cet enchaînement de succès, Stevie Wonder fait taire les critiques et ses détracteurs.
Oui, car il faut savoir qu'au sein du label où la production est millimétrée, où on cherche à lisser l'image des artistes pour plaire au plus grand nombre, eh bien on n'apprécie pas forcément le franc-parler du jeune homme. Cependant, il est impensable de laisser partir une telle poule aux œufs d'or. Stevie Wonder rapporte beaucoup, beaucoup d'argent, 30 millions de dollars à Motown depuis le début de sa carrière. Une carrière commencée très tôt, vous l'avez compris. Si Berry Gordy veut garder Stevie Wonder, il va falloir lâcher du lest. Et Stevie Wonder veut être maître de sa destinée et de ses enregistrements. Il finance entièrement la production de l'album Signed, Sealed and Delivered en 1970. Il n'a alors que 20 ans. Like a fool, I went and stayed too long. I'm wondering if your love's still strong. Ooh, baby, here I am, signed, sealed, delivered, I'm yours. Then that time I went and said goodbye. Now I'm back and not ashamed to cry. Ah!
Signed, Sealed and Delivered. Pardon pour l'accent. La voix de Stevie Wonder en 1970, un peu plus tard, le 13 mai 1971.
C'est un coup
pareil match. Le jour de ses 21 ans à sa majorité, donc il va obtenir ce qu'il a demandé, une liberté artistique totale et le versement de ses droits d'auteur aujourd'hui. Stevie Wonder fête ses 72 ans.
Et joyeux anniversaire à lui. Merci beaucoup, Ombline. Vous l'avez compris, Pierre Devineau est en train de s'installer dans ce studio. Vous le retrouvez dans un instant. À tout de suite.
Europe Matin. 6h27. Excellente matinée à l'écoute d'Europe 1.
Ah ouais, on vous donne rendez-vous lundi à partir de 5h. Et d'ici là, on vous souhaite bon week-end. Bonjour, Pierre Devineau.
Bonjour et bon week-end, mon cher Julien et Ombline. Merci. Bonjour à tous. Bienvenue en ce vendredi 13.